Chapitre 11. C'était l'habitude que Paulin dit tout à sa mère, ce qu'il faisait, ce qu'il pensait, ses projets comme ses espérances. Cependant, il ne lui avait pas avoué son amour pour Marichette, et bien qu'il n'eût jamais laissé passer un jour sans parler d'elle, il ne s'était point encore expliqué franchement sur son compte. S'il ne devait point être aimé, à quoi bon imposer à sa mère le partage de son chagrin et de ses tourments ? Mais, après leur entretien, il n'avait plus cette réserve à observer, il était aimé, il fallait qu'il criât son amour. Qui pouvait-il prendre pour confident si ce n'est sa mère ? Jamais il n'avait monté la côte de Criquefleur d'un tel pas, il avait des ailes. Tout en courant, il répétait son nom, « Marichette ! Marichette !» Jamais nuit ne lui avait paru aussi belle, jamais les étoiles n'avaient eu cet éclat. Ah, qu'il était doux de vivre! Marichette, je t'aime, je t'aime! C'était vrai, elle l'aimait, le monde était à lui. Quand il ouvrit la porte de leur maison, Psit, comme tous les soirs, accourut à lui. Au lieu de lui donner les deux ou trois caresses du retour, il le prit dans ses bras et à plusieurs reprises il l'embrassa. Ah, Psit, quel bon chien! Es-tu un bon chien? Et Psit, tout heureux, rendait les caresses qu'on lui donnait, sans se douter qu'elles étaient une sorte de remerciement. Surprise des éclats de voix de son fils, Madame Moreau, qui était penchée dans la cheminée pour tremper la soupe, s'interrompit dans son occupation et, se retournant, la cuillère à peau à la main, elle regarda Paulin. « Qu'as-tu donc ? » demanda-t-elle. Sans répondre, il alla à elle et, la prenant à plein bras, il la releva. « Ah, maman, maman !» dit-il en l'embrassant. « Mais qu'est-ce que tu as, mon garçon ? Tu me fais peur. Regarde-moi, tu verras que tu n'as pas à t'inquiéter. » En effet, à la lueur de la chandelle des 12 accrochée à la haute de la cheminée, elle vit qu'il avait le visage rayonnant. « Pour sûr, tu as quelque chose. Je te dirai cela en dînant. Eh bien, dînons vite. » Et tout de suite, elle posa la soupière sur la table où le couvert était mis, tandis que Paulin, allumant une lanterne, allait, accompagné de Psit, tirer du cire dans la cave située au fond de la cour. Ils s'assirent en face l'un de l'autre. Madame Moreau, avec la placidité des paysans qui ne se laissent jamais impatienter par la curiosité, Paulin, remuant, agité, ne tenant pas en place. Lentement, elle le servit. Puis, tout aussi lentement, elle se servit elle-même et se mit à manger sa soupe avec une sorte de gravité religieuse en femme qui accomplit un devoir. « Eh bien non !» s'écria Paulin tout à coup. « Je mangerai après. »« Ta soupe va se refroidir. »« Cela ne fait rien. Tu sais que je l'aime, n'est-ce pas, et que tu seras toujours la première ?»« Comment la première ? » demanda-t-elle, étonnée et ne comprenant pas. La première dans mon affection et ma tendresse. Cette fois, elle s'interrompit de manger sa soupe et, restant la cuillère en l'air, elle parut réfléchir. Ah mon Dieu ! S'écria-t-elle, te serais-tu amourachée de quelque fille ? Quand cela serait ? À ton âge, dans ta position ? Mon pauvre enfant, quel coup tu me donnes ! Tu veux donc la misère ? Elle poussa son assiette sur la table. Tu m'as coupé l'appétit. Paulin n'avait pas pensé à cela. Décidé à s'ouvrir à sa mère, il n'avait qu'une crainte, l'inquiéter dans son affection, et c'était pour prévenir cette inquiétude et cette jalousie maternelle qu'il avait pris la précaution de commencer par l'assurer qu'elle serait toujours la première. Mais qu'elle s'effrayât à cause de son âge et de sa situation, cela ne lui était même pas venu à l'idée. Justement parce que cette préoccupation n'était ni de son âge ni de sa situation. Ce n'est pas quand on a 22 ans et qu'on est pauvre qu'on a souci des choses d'intérêt. Il resta un moment décontenancé car rien de ce qu'il avait préparé pour gagner sa mère n'avait plus de sens. C'était d'amour qu'il comptait parler, non d'argent. Si les raisons qu'il avait à donner pour prouver qu'il ne pouvait pas aimer une femme plus charmante que Marichette, était nombreuse, il ne croyait pas du tout à celle qu'il pouvait invoquer pour démontrer qu'elle était un bon parti au point de vue de l'intérêt. « Et quelle est cette fille ? » demanda-t-elle. « Celle-là même dont je t'ai si souvent parlé depuis 8 mois, celle dont tu étais la première à reconnaître les mérites, mademoiselle Marichette. » « La cousine de M. Belloc ? » ?»« Il n'y a qu'une Marichette. » »« Tu l'aimes ?» J'ai commencé à l'aimer le jour où je l'ai vue pour la première fois. Et elle ? Aujourd'hui, elle m'a promis d'être ma femme, nous sommes engagés, c'est là ce qui me rend si heureux. Vivement, elle se leva et, tournant autour de la table, elle vint l'embrasser. Pardonne-moi, mon garçon. Il la regarda abasourdi. Il ne faut pas m'en vouloir. Tu sais bien que je ne suis qu'une pauvre femme sans éducation, je ne comprends pas tout de suite. J'aurais dû deviner que tu ne pouvais pas aimer une fille qui n'aurait rien. » Cela n'était pas fait pour le remettre de sa surprise. « La cousine de M. Belloc, » continua Mme Moreau, « son héritière, et elle t'aime ?» Il eut le cœur serré. « Et quoi ? Sa mère le supposait capable de n'aimer Marichette que parce qu'elle était l'héritière de M. Belloc ?»« Héritière ! » Il n'avait jamais eu l'idée qu'elle pouvait le devenir un jour. C'était l'orpheline qu'il avait aimée, la pauvre fille abandonnée, malheureuse. Et même, c'était parce qu'elle était orpheline et pauvre qu'il l'avait aimée. S'il avait vu en elle l'héritière de Belloc, il n'aurait certainement pu s'empêcher de la trouver charmante, mais il n'aurait pas été poussé vers elle par la sympathie, et quand il aurait senti l'amour naître, il aurait bien su sans doute lui résister. Il n'était point de ceux qui courent après les héritières. Ce fut la réponse qui lui vint aux lèvres. Heureusement, il eut la présence d'esprit de la retenir à temps. Ce n'était pas à lui de plaider contre Marichette. Assurément, il eût préféré que sa mère l'acceptât pour ce qu'elle valait réellement, plutôt que pour la qualité d'héritière, mais ce n'était pas le moment de discuter là-dessus. « Et le consentement de M. Belloc ?» demanda Mme Moreau. « Crois-tu que si j'allais le lui demander, il me le donnerait ? Non, n'est-ce pas ? Aussi avons-nous décidé d'attendre. Nous nous aimons. Pour le moment, cela nous suffit. Plus tard, nous ferons notre demande quand elle aura de meilleures chances pour être bien accueillie. Mais avec toi, nous ne pouvions pas attendre. » Mme Moreau avait repris sa place et elle mangea sa soupe, faisant une pause entre chaque cuillerée. « Et tes projets, dit-elle enfin, Paris, l'école des beaux-arts ?» Ça avait été une question longuement discutée entre eux que celle du voyage à Paris et sur laquelle la mère n'avait cédé que par tendresse pour son fils, ne comprenant rien à toutes les raisons qu'il lui donnait pour le justifier. C'était une bonne femme et surtout une bonne mère, mais, comme elle le disait, elle n'avait pas d'éducation. Fille de paysan, elle était restée paysanne et les idées qui passionnaient son fils n'avaient jamais pu entrer dans sa tête étroite. L'ambition, la gloire, l'étude, le talent étaient pour elle des mots vides de sens ou à peu près. L'ambition qu'elle admettait, c'était celle qui s'employait à gagner de l'argent. Et pour la gloire, elle ne voyait pas en quoi il était plus glorieux de construire une maison à Paris qu'à Saint-Maclou. Restée veuve, elle avait mis toute sa vie dans l'économie, dans l'ordre du ménage, dans la dévotion pour son fils, en même temps que pour la Sainte Vierge, et tout cela s'accommodait mal avec les projets de Paulin. Sans avoir jamais vécu de la vie de Paris, elle sentait d'instinct que l'économie et l'ordre ne devaient pas être là aussi facile qu'à Saint-Maclou. Bien entendu, dit Paulin, il n'est plus question de Paris. « Marichette reste à Saint-Maclou, nous resterons à Saint-Maclou. Sois tranquille, je trouverai à faire ma vie ici. » « Je te l'ai toujours dit, mais rassure-toi, je n'en voudrais pas à Marichette de t'avoir convaincue quand tu ne voulais pas croire ta mère. Je suis trop heureuse de ce qui arrive pour me fâcher. C'est un grand merci que je lui dois. Est-ce que j'aurais pu vivre à Paris ? Quand on est une campagnarde, on vit à la campagne. » La belle figure vraiment que j'aurais faite à Paris, avec mon bonnet de linge et mon caraco. Toute la soirée, et jusqu'à 1 heure avancée, devant l'âtre, où quelques charbons brillaient encore dans les cendres blanches, ils s'entretinrent de Marichette, Paulin parlant de la femme, Madame Moreau de l'héritière. Elle était si bien établie dans la croyance publique, la fortune de Belloc aînée, que Madame Moreau se grisait de cette idée d'héritage sans que Paulin pût rien dire pour la calmer. Jamais elle n'avait, même en rêve, souhaité un si beau mariage pour son fils. À un certain moment, Paulin, ayant timidement risqué qu'il était peut-être chimérique d'escompter l'héritage d'un homme de l'âge de Belloc, elle se fâcha. « Je ne dis pas qu'il va mourir tout de suite pour que vous héritiez, mais une fois que tu seras le mari de sa cousine, il ne pourra pas ne pas te donner un intérêt dans ses affaires et ta fortune sera faite. Tu le remplaceras. Ce sera Célanie Belloquet qui jettera de beaux cris. »